Ça va ?
Ah, c'est bien. Il y a encore un peu de place, vous pouvez avancer, il reste deux sièges devant. Ceux qui souhaitent.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Les gaillards pouvaient avancer. Hop. Ouais. Encore une siège, un siège. Bon. Eh bien, bienvenue à toutes et tous au Musée de la Vie Ordinaire. On est vraiment content que vous soyez là en nombre. Un rapide déroulé de la soirée. On va d'abord démarrer par le collectif Papier Machine qui va nous présenter ses formidables micro-éditions. Ensuite, on va faire une petite pause histoire de remplir les verres et écouter encore de la musique de DJ David Ordinaire dont je vous reparle juste après. Ensuite, on entendra Bruno Munster sur son fameux essai néo-pataphysique sur les mille et une boîtes, la théorie selon laquelle... les humains ont une propension indéniable à vivre dans des boîtes et en reproduire, je n'en dis pas plus. Et par la suite, place à la musique, où on va danser. Et pour les, ceux qui ont le plus envie de danser, eh bien, à un moment donné, on lancera le quiz vodka, qui consiste à essayer de trouver les noms du morceau ou de l'auteur ou de l'interprète. Et du coup, à s'enfiler des shots de vodka. Bref, vous avez
pour
compris.
Les gens qui veulent danser ou boire ?
C'est les deux.
C'est pas clair.
Voilà. Alors, d'abord, je suis tout content d'accueillir Valentine. Hein. Bonjour, Valentine. on a décidé qu'on ferait ça de manière pas très formelle. Voilà, alors comment ça se fait que Valentine et le collectif Papier Machine sont ici ? Moi, je suis tombé sur ces micro-éditions ici, dans l'ancienne librairie de Théo. Théo qui est derrière le bar, voilà, et qui vous accueille dans sa maison. Ici, en fait, c'est son salon. Et Théo, c'est en quelle année que tu as vu Valentine pour la première fois venir
Si j'ai bon souvenir,
oui.
Ça devait être en 2014, qu'elle est venue me présenter le numéro 1 Papier Machine. Donc ça fait 11 ans déjà.
11 ans. Voilà, donc le numéro 1 de Papier Machine. Et donc, c'est quoi Papier Machine alors ? Comment ça se fait qu'il y ait eu des marchés de
Eh bien, parce qu'il y avait une très bonne librairie presse. Et que nous avions décidé de faire une revue. Donc, effectivement, en 2013, on a commencé à avoir cette idée de faire une revue. Qui a décidé de s'appeler à un moment donné Papier Machine. Et avec un principe, peut-être je commence par dire un principe tout simple. Qui était... de choisir un mot banal qui n'est pas un thème, au sens où c'est pas liberté ou démocratie, mais plutôt plateau, manche, trappe, coin, souffle, tourniquet, des mots comme ça. Et c'est pas non plus un thème parce qu'on avait, c'est pas, on demande pas aux personnes de, c'est une revue de création, donc on va chercher des personnes ou des personnes nous contactent pour participer. Mais l'idée c'est pas qu'à partir d'un thème, ils doivent parler de quelque chose de particulier. Mais plutôt de voir comment à partir de ce mot-là, la diversité des personnes qu'on va contacter va rebondir et proposer quelque chose. Et en fait, l'envie de départ de la revue, puisque Papier Machine, c'est un peu une...
Au départ, c'est une revue ou c'est d'abord...
Au départ, c'est une revue.
C'est ça.
Au départ, c'est une revue qui a été créée par 5 personnes qui en sont... Enfin, c'est une initiative, une idée de Aldun Raoul, qui n'est pas là ce soir. Qui a réuni 4 autres personnes autour de lui en disant si on faisait une revue. En fait, disons que ce qui nous a réunis et vraiment l'envie de départ, c'était de jouer un peu avec la langue, d'explorer les mots, mais pour à la fois créer des espaces, un peu de liberté dans la langue et de jeu, mais aussi des espaces critiques. Il y avait un peu cette idée de choisir un mot, c'est venu d'une réflexion un peu, parce que lui venait d'études de journalisme, moi plutôt des sciences sociales, et un peu ce truc où parfois... t'as un mot qui se met à circuler partout tellement qu'on sait plus trop bien ce qu'il veut dire et qu'il se vide un peu de son sens. Et nous, on s'était dit, ah ben non, on va juste ramasser des mots sur le trottoir et voir comment on peut les re-remplir de sens. Et on avait aussi cette expérience commune d'avoir du mal à se mettre dans des cases et dans des disciplines. Et donc l'idée, c'était pas de faire ni une revue de journalisme, ni littéraire, ni de création, ni de sociologie, mais de voir comment, à partir de ce mot qui est un mot en fait que tout le monde, tout locutoriste francophone utilise ou connaît, et du coup de voir comment on pouvait faire aussi d'une revue un espace de rencontre entre des regards, des disciplines, des pratiques. Et donc on s'est dit, alors on va aller chercher quelqu'un qui fait des mathématiques, de la sociologie, autant que de la photographie, de la poésie, de la performance, de la cuisine, du vin. Voilà, d'essayer de mélanger des champs pratiques avec des champs un peu plus théoriques et aussi des gens qui ne viennent pas forcément pour une étiquette particulière mais qui juste arrivent avec leur petit bagage de connaissances, de savoir-faire ou envie d'expérimenter des choses différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire et de proposer un espace pour ça. Et
comment est-ce que vous arrivez à donner de la cohérence ?
Bonne question. La cohérence, disons que c'est pas un... C'est pas un objectif en soi. En fait, la cohérence, on va la chercher par contribution. Donc, il y a des contributions visuelles et textuelles, et il y a aussi des rubriques. Je pourrais y revenir, mais dans chaque, nous, on fait un gros accompagnement de éditorial. Donc, si une personne veut proposer un texte, elle vient avec une idée. Et comme c'est de la création, après, c'est selon le besoin de la personne estimé par nous ou manifesté par la personne. Mais on va chercher la cohérence interne à une proposition. C'est aussi de voir, voilà, ah j'aimerais bien, moi j'ai l'habitude de faire des articles scientifiques, mais je voudrais faire un truc plus, un peu plus ludique pour parler de ce que je connais. Et alors on va travailler avec cette personne pour que ça soit, que ça atteigne la personne qui va lire ensuite, en essayant de capter l'intention et du coup de le rendre le plus efficace possible et plaisant possible. Et après il y a un autre élément de cohérence qui est cette réflexion que nous on a par rapport à la langue, donc c'est une attention hyper... assez, je sais pas comment dire, stricte ou rigoureuse d'une certaine manière. Il y a quelque chose de l'ordre de très sérieux dans la manière dont on fait papier machine, justement dans l'emploi des mots, dans pourquoi on emploie un mot plutôt qu'un autre. Et donc nous on est très exigeants avec nous-mêmes pour ça, mais aussi du coup avec les autres. Et c'est le fait d'une espèce de grande exigence quant à l'usage de la langue et du langage qui à mon avis crée un peu le sens. Et ensuite, il y a aussi la fabrication de l'objet. Donc c'est vrai que ça, d'ailleurs, c'est un truc. Là, c'est le numéro qui vient de sortir, enfin qui n'est pas encore sorti, mais qui est là. Et on en parle dans cette préface parce que c'est un peu la difficulté de papier machine, c'est que plein de gens se disent, ah bah c'est un truc un peu justement un peu élitiste, un peu pas très ordinaire, parce qu'en fait, tu sais pas de quoi ça va parler. Donc c'est un peu déstabilisant. Tu ouvres et tu peux tomber sur une fiction, un poème. Un article de vulgarisation scientifique, de la poésie. En fait, il y a des formats très différents et des sujets très différents. Et donc, parfois, ça peut sembler un peu dur d'accès parce qu'il n'y a pas ce fil qui est un thème. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord, on soigne beaucoup l'objet. Donc, en fait, chaque numéro a un peu son identité propre avec un habillage graphique spécifique qui n'a pas vocation à envahir les contributions et les propositions. Ça, on y veille avec une grande attention. Et plus, en fait, si on regarde l'évolution, de plus en plus, c'est des choses aussi qu'on a appris en faisant. Donc au début, on a fait un peu des erreurs par rapport à ça et qu'on a essayé de corriger. Donc les textes doivent être lisibles, les images doivent être bien mises en valeur. Mais on essaie de créer une cohérence graphique dans tout le numéro et propre à chaque numéro qui va à la fois assurer la cohérence, mais aussi peut-être donner un point d'entrée dans l'objet, indépendamment du contenu. Et ensuite, il y a tous les rubriques et les à côté qui sont vraiment des lieux que là où nous, on investit avec un ton un peu décalé, souvent un peu énervé, absurde, des choses un peu bizarres. Apprendre à créer des chapitres, pour faire des entrées de chapitres, on pouvait mettre encore un peu plus de notre patte, qui est celle de papier machine, dont on parlera peut-être un peu plus avec les petites éditions. Parce que on n'est pas en maîtrise de ce qui est dit, ou du ton, même si on travaille avec les personnes qui créent le contenu, mais chacun vient, il y en a qui font des trucs super sérieux, il y en a qui font des trucs glauques, il y en a qui font des trucs marrants et bizarres. On est quand même un peu identifié comme on fait des trucs bizarres, donc il y a des gens bizarres aussi qui nous contactent, et tant mieux. Mais il y a des trucs aussi super sérieux, et nous on aime bien ça. On a quand même essayé d'avoir un peu ce qui fait la touche papier machine et qui se retrouve beaucoup dans les rubriques, dans les entrées de chapitres, dans tous les textes liminaires et aussi dans les petites éditions.
tout ce que tu dessines, en fait, c'est une ligne éditoriale. Parce que du coup, par exemple, dans la bruxellose, moi, j'applique un strict libre arbitraire. C'est des choses, je prends, des choses, je ne prends pas et je ne justifie pas. Est-ce que vous faites ça aussi ou bien c'est moins strict?
Oui et non en même temps. Je rigole parce qu'on a. C'est une, donc, tu parlais du collectif Papier Machine. C'est un peu particulier, Papier Machine. Moi, je ne dirais pas que c'est un collectif, même si c'est un mot qu'on utilise souvent. Au sens où on dit plutôt c'est une galaxie papier-machine. Parce qu'on a des rôles très différents. Et si là, par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui parle beaucoup, c'est parce que par rapport à ce qui est vraiment du processus éditorial et à la fois de la conception de la revue et tout ça, je suis une des personnes les plus impliquées avec Lucie, qui n'est pas là non plus, et Aldouin, qui maintenant est en retrait, mais qui était un des fondateurs avec moi. Et donc, c'est comme on est là pour parler vraiment de l'édition, c'est moi qui parle beaucoup, mais la galaxie papier-machine, c'est... Arthur, Leslie, Florian, Alexia qui sont là, qui ont à la fois des rôles dans, parce qu'on est une ASBL, mais aussi pour l'élection du mot, parce qu'on élit le mot, à la fois pour des réunions où on peut quand même réfléchir à trouver des contributeurs, des contributrices. Enfin, voilà, il y a plein d'espaces, on organise beaucoup d'événements, et donc on rigole sur la ligne éditoriale, parce qu'on a chacun un peu son leitmotiv depuis 11 ans, et notamment Florian qui est formateur en journalisme, c'est chine à dire que Papier Machine n'a pas ligne éditoriale. ce qui est faux. mais je comprends que c'est tendancieux. Et donc, il y a évidemment une part d'arbitraire, mais qui est pas vraiment... disons que nous, on aime plutôt dire que c'est le hasard. Le hasard qui guide à la fois les choix et les rencontres. On va quand même chercher des gens, mais c'est aussi les rencontres qui tombent un peu sur notre chemin, le mot. Enfin, le hasard a une part très importante dans ce qu'on fait. Et un truc super un peu arbitraire de mais plus de la vie quoi, un truc sur lequel tu tombes et on cherche pas à être exhaustif, on cherche pas à fouiner dans tous les coins et tout. En revanche, par exemple, il y a des choses qu'on peut publier dans Papier Machine qui sont pas spécifiquement ce que moi j'aime le plus lire ou le type de photo que j'aime le plus regarder à titre personnel. En revanche, je trouve que il y a pas dans les autres numéros de Papier Machine, dans ce numéro là, et que ça donne une approche spécifique ou un peu décalé, ça donne un nouveau regard sur ce mot qui est là et qu'on connaît tous. Et donc ça, c'est une bonne raison d'accepter une proposition. Donc disons que la ligne, c'est vraiment, par numéro, d'avoir une diversité la plus large possible, quoi.
Ok. Et alors, à partir de quel moment vous avez basculé de la revue vers de la micro-édition?
Ouais.
Parce que quand on voit ce qui est étalé sur la table, on voit qu'il y a la micro-édition avec, en plus, des beaux objets. Mm. Donc, comment ça s'est passé l'un à l'autre?
Ça, les liens, c'est à la fois les mots, questionner les mots et l'usage qu'on en fait, qui est vraiment notre gros truc, quoi, notre grosse machine, l'attention aux mots, avec une dimension aussi un peu critique et en même temps ludique sur la réflexion sur les mots et la passion de faire des objets beaux. Donc ça, c'est clairement, deux... En tout cas, beau selon nos critères, évidemment. Et c'est deux choses qu'on fait vraiment avec grand sérieux, même si le contenu n'est pas forcément sérieux. Et micro-édition, au départ, aujourd'hui, je suis parfois plus à l'aise de dire petite édition, parce qu'on imprime chez Snell à Liège et que c'est des très très grosses machines et qu'on les coupe à la main. Et que parfois, à 500 exemplaires, parfois on réédite. Je ne sais pas à partir de quand on est de la micro ou de la petite édition, mais disons que peut-être que
un des critères, c'est est-ce que vous êtes distribué ou pas?
Alors, on est 7... Les petites éditions sont désormais distribuées par la librairie Wallonie-Bruxelles pour le reste du monde. Donc c'est vraiment une distribution, donc c'est accessible en librairie via la librairie Wallonie-Bruxelles à Paris, qui du coup les rend accessibles à n'importe quelle librairie. En Belgique, c'est nous, y compris la revue, c'est nous qui faisons la diffusion et distribution. Donc voilà, c'est là où micro-édition, je dirais que je me sors de cette catégorie.
D'accord, ok.
Je me sentirais illégitime à m'inscrire dans cette... et je pense que c'est justifié. Mais donc ces éditions, la toute première qu'on ait faite, c'est celle-là, c'est l'Encyclopédie Volume 0, qui pour le coup s'inscrivait vraiment, je pense, dans la logique un peu de la micro-édition ou du fanzine, et en fait, c'était en 2000. Et là, pour le coup, ces éditions-là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que maintenant, on a officiellement lancé une collection avec l'idée aussi d'accueillir des livres d'autres personnes, de fonctionner un peu différemment, Mais disons que ces éditions-là, c'est surtout le fruit du travail d'Aldo, Lucie et moi. En 2017, on a été invité en résidence à Charleroi, dans le cadre du festival Livresse au Vecteur. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Quelqu'un déteste le
Vecteur. Quelqu'un qui tout saute.
J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Et en fait, on a été... En gros, il y avait ce festival Livresse. Un jour, j'ai été déposer des revues au rayon et c'était trop bien. Et j'ai dit, ah, je voudrais rester ici, comment on peut faire? Et ils ont fini par nous inviter pendant 2 mois à être un peu comme co-curateurs de la nouvelle édition Livresse. Ils avaient envie de changer un peu le format à ce moment-là. Et donc, on en a profité pour faire. Donc, on a été invité 2 mois dans le Vecteur, ce qui était long, mais super. C'est long parce que c'est que des portes... Non, c'était pas trop long, mais c'est que des portes coupe-feu, donc ça claque tout le temps. Donc c'est d'abord porte coupe-feu chez soi, c'est pas un bon plan. On a fait ce numéro, Tourniquet. Et donc la première chose qu'on a fait pendant le premier mois, c'était de boucler le numéro là-bas. Et donc à certains égards, notamment la préface, il y a des choses où on voit qu'on a traîné un peu longtemps à Charleroi. Chacun interprète comme il veut, c'est l'information.
On verra dedans.
Voilà. Et c'est un numéro aussi assez important parce que c'est la première collaboration qu'on a fait avec le graphiste Sébastien Guéraud avant de changer de graphiste à chaque fois. Avec cette idée de vouloir avoir toujours quelque chose de différent, de découvrir un nouvel univers à chaque numéro. On s'est au bout d'un moment un peu épuisé et à partir du numéro 10, on a recommencé à travailler avec Sébastien avec qui on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'était la première partie de la résidence. Et l'autre partie, on a décidé de lancer l'entreprise Encyclopédique. Donc cette grande entreprise qu'on a appelée l'Encyclopédie et qui s'inscrit clairement dans la veine pataphysique. Je pense que c'est ça qui nous réunit. L'idée de l'encyclopédie, à l'origine, c'est donc de faire une encyclopédie qui boite. Donc au lieu de l'encyclopédie, vous le savez, c'est l'idée d'englober tout le savoir, d'être très exhaustif et très, le plus scientifique possible. Selon des critères définis par certaines personnes. Et l'encyclopédie, l'idée c'était au contraire d'attraper des connaissances de manière tout à fait arbitraire, donc de refaire des entrées d'encyclopédie à partir de mots qu'on aurait choisis un peu au gré de nos pérégrinations à Charleroi, parce que des choses qu'on voyait, mais aussi des choses qu'on avait déjà en tête, et d'un coup ce mot-là m'évoque une réflexion, mais de le redéfinir sous un format encyclopédique, mais en utilisant le vocabulaire et les lunettes d'une science qui n'est pas celle qu'on utilise d'habitude pour parler de cet objet. Donc par exemple, là il y a l'entrée cacahuète. L'entrée cacahuète, c'est de l'algèbre fondamentale. Ça en a l'air à peu près. C'est, on utilise le vocabulaire de l'algèbre pour parler de l'expérience qu'on a vraiment de la cacahuète. Et on voit quel genre de réalité ça fait surgir. Mais donc c'est pas vraiment de la fiction, au sens où c'est vraiment ce qu'on... Voilà, l'expérience de la cacahuète.
D'accord, ce numéro-là,
c'est le gars. Là, il n'existe plus. Ça, c'est notre exemplaire de la boîte secrète.
Ah, ouais, d'accord.
On a défini une boîte secrète, justement, où ce qui est là, je n'ai absolument pas le droit de le faire, mais je peux te le prêter.
Non, non, là.
À côté, il y a cigarette, c'est de l'art chorégraphique. Donc, il y a diverses choses comme ça. Et c'était un peu notre première expérimentation. Et on avait aussi invité, il y a 3 personnes. Donc, comme c'était dans le cadre du Festival Livresse, on a invité 3 personnes à 6 en fait. 2 personnes qui font plutôt de l'image, non, 3 personnes qui font plutôt de l'image et 3 personnes qui font plutôt du texte, à qui on avait soumis des mots en parallèle. Et du coup, il y a les pages jaunes, c'est des contributions d'invités extérieurs qui sont venus séjourner, eux, un week-end à Charleroi. Donc ça, et en fait, là, c'était le lancement de l'encyclopédie. On a fait ensuite un volume 1. On avait été invité en résidence à Casablanca. Et donc, encore une fois, ça ne parle pas de Charleroi, ça ne parle pas de Casablanca, c'est juste que nous, d'un coup, on était projetés dans un univers qui n'était pas notre biotope naturel, à découvrir des choses, à parler avec des gens, et donc ça a une influence un peu sur les images qui venaient à nous. Enfin, là, par exemple, il y a beaucoup de choses sur la langue, qui est de toute façon ce qui nous intéresse et tout, mais au Maroc, c'était vraiment hyper passionnant, toutes les langues qui s'entremêlent et tout ça, donc ça se sent beaucoup, par exemple, dans ces numéros. Et là où ça a commencé à dévier un peu, c'est quand il y a une équipe un peu allumée à la bibliothèque de Malmedy, dans les cantons de l'Est. C'est un réseau de bibliothèques qui s'appelle Wamabi, et la directrice, Roselyne Lemaire, et la seule bibliothèque de Belgique qui s'est abonnée à Papier Machine depuis le premier numéro et qui n'a jamais arrêté. Il n'y a aucune autre librairie qui s'est abonnée à Papier Machine, je mens, parce que depuis quelques temps, il y a la bibliothèque centrale à Nivelles. Donc c'est, je pense que c'est pour les fonds, quoi. Mais la seule bibliothèque où vous trouverez tous les Papier Machine, c'est à Malmesy. Je vous encourage à y aller. Et en fait, ils ont vu ça à Liège, enfin un des bibliothécaires, Mathieu, je rends à tous les Césars, ce qui est vraiment César. Et qui, en fait, chaque année, pour leur rapport d'activité, ils essaient de trouver des formes un peu particulières. Et là, ils se sont dit, ah, on pourrait faire un abécédaire. Ils disaient, ah, vous voulez pas venir faire une encyclopédie, un truc, on pourrait faire un truc ensemble, c'était hyper flou. Et on a été 10 jours, en mois de janvier, un peu jouer les enquêteurs, parce qu'en fait, ils devaient faire le bilan de leur plan de développement. Plan quinquennal qui, en fait, avait duré 7 ans. Et ils étaient genre submergés suite au décret des bibliothèques avec toutes les activités qu'ils avaient faites, ils ne savaient pas du tout comment en tirer des conclusions, quoi. Et donc on a fait ça. On a posé énormément de questions, on a fait un peu de travail de consultance, comme ça on n'a pas mis de cravate mais presque. On a fait des entretiens avec toute l'équipe, on a lu leur rapport d'activité de toutes ces années, on a rencontré des gens dans la bibliothèque, on a aussi lu Alberto Manguel, toutes ses dérivations sur les bibliothèques, et nos propres expériences de bibliothèque. Et on en a, comme vous en doutez peut-être. Et on a fait ça. Donc il y avait ça, ça a été tiré à 30 exemplaires, imprimés et façonnés par Pascal Leclerc à Liège, dans les ateliers Purport. Et un grand, en fait, il en existe un très gros comme ça, qui avait vocation à trôner dans la bibliothèque. Et donc c'est l'anti-manuel de la lecture publique. Et c'est aussi des entrées par mots, un peu comme une encyclopédie, que des mots, là c'est chameau, mais que des mots qui viennent, massicot, éponge, qui viennent de discussions qu'on avait eues. Et en fait, qui parle d'une réalité de ce que c'est que de tenir une bibliothèque aujourd'hui. Et comme c'est censé être un rapport d'activité qui est censé aider à faire le prochain plan de développement, c'est aussi un jeu dont vous êtes le héros. Donc ça, si vous voulez vous situer, quel est votre rapport aux bibliothèques, qu'est-ce que vous pensez qu'une bibliothèque devait être, vous pouvez faire ce jeu. Et ça, ils ont quand même envoyé ça à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à tous leurs partenaires, et à Malmedy, genre à la commune, ils sont pas marrants. Donc Roselyne a fait « voilà !» Notre plan et nos projets, ce qui me l'a rendu extrêmement sympathique. Et en fait, ce qu'elle a aussi fait, c'est qu'elle l'a envoyé à Livre Hebdo, qui est un magazine d'édition professionnelle en France, qui s'adresse à toutes les bibliothèques, à toutes les librairies, à tout ça. Parce qu'il y a un prix, il y a le grand prix des bibliothèques. Et en fait, elle a envoyé ça, et c'était les 10 ans du prix, et il y a un type du jury, qui est sociologue, Claude Boisneau, qui a reçu... et qui a dit ce truc, c'est trop bien, visiblement ça lui a parlé. Et donc ils ont créé un prix spécial, qui était le grand prix Livre Hebdo des spéciales des 10 ans, parce qu'évidemment ça rentrait dans aucune catégorie. Et donc on a reçu un prix. Et donc là, la Fédération de Bruxelles était super contente, et a dit on en veut pour toutes les bibliothèques de la francophonie belge, ce qui nous a permis de le tirer à plus d'exemplaires, et donc ça c'est le livre qui est là. Et ce qui nous a aussi surtout permis d'ouvrir un peu une brèche à décliner le format encyclopédique, parce que les encyclopédies, c'est marrant, mais c'est pas forcément facile à lire. Il y a des entrées, ça va, mais on joue avec le discours scientifique, il faut comprendre le truc bizarre qui a relié l'algèbre et la cacahuète et tout. Enfin, y en a qui adorent, et d'autres, qu'est-ce qu'il faut ? Et du coup, on a commencé à décliner. Et donc là, on nous avait demandé de faire une encyclopédie sur le voyage, c'est Bruxelles-Nord-Ouest, les communes de Bruxelles-Nord-Ouest qui étaient Ville des Mots en 2020. Et qui nous ont dit, bah oui, venez, faites ça. Venez en résidence, travailler sur le voyage confiné à Centre culturel Archipel 19 à Berkem.
Le fameux imprécis voyage.
Imprécis voyage, notre best-seller de tous les temps. Mais parce qu'on s'est dit, en fait, c'est un truc qui doit s'adresser à tous les habitants des quatre communes de Bruxelles, on ne peut pas faire une encyclopédie. En fait, ça parle à. Et on a aussi réfléchi qu'est-ce qui nous amusait de faire et comment on avait envie de parler du voyage. Et donc là, il y a aussi un gros travail de recherche. De lecture sur qu'est-ce que c'est que le voyage, mais toujours de manière super arbitraire. Ah, je regarde, j'ai ce livre, on parle de ce livre, j'ai ça, des livres qu'on se passe entre nous, des livres qu'on lit séparément, nos propres expériences, nos pérégrinations dans le Bruxelles Nord-Ouest sous couvre-feu, et ça a donné ça, donc l'imprécis voyage, mauvaise publicité mensongère et conseils douteux. On détourne un peu des formats, du guide et tout, mais c'est surtout des mauvaises qui raconte, qui parle un peu de notre, qui interroge un peu le rapport qu'on a au voyage, pourquoi on veut voyager, qu'est-ce qu'on fait quand on est en voyage, qu'est-ce qu'on rapporte. Voilà. Et en fait, en gros, tout ce qui relie les éditions encyclopédiques, c'est un peu une volonté de questionner. Papier-machine, disons, c'est, on a toujours une entrée par mot. Et là, c'est vraiment tout ce qui sont les objets d'accès à la connaissance dont on a envie de s'amuser. Et du coup, en soulignant aussi un peu comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec. Et le dernier, c'est de là. Et ça, c'est encore la bibliothèque de Mamesy qui, après le confinement, il y avait les appels qui sortaient et tout, a dit « Ah, vous voulez pas venir faire un truc ?» Je sais plus comment ça s'est mis, mais en gros, ils nous ont demandé de parler de la solitude. On a dit « D'accord, une encyclopédie de la solitude. » On est arrivé, on s'est dit « En fait, personne ne sait ce que c'est que la solitude, c'est le bordel, on va déjà mettre ça au pluriel, et on va créer une académie des solitudes. » Quand on ne sait pas quel est le sens des choses, on crée une académie. Et donc, on a passé près de 2 mois là-bas. Une première partie plus ou moins enfermée dans une grotte, à lire des livres, comme il se doit. Une deuxième partie où on a créé une sonothèque, avec notamment Leslie et Arthur, qui ont alors, dans leur grand talent de savoir se servir de micro, ce qui est un peu une constante dans l'équipe de machine, pas moi. Et on a créé une sonothèque qui est toujours accessible en ligne, donc vous pouvez aller à l'académie... Académie des solitudes.be. Il y a la sonothèque, il y a une vidéo aussi qu'on a fait en stop motion qui explique ce que c'est que la démarche encyclopédique, particulièrement appliquée aux solitudes. Et puis on a fait ce livre qui donc s'appelle De là, fragment d'une recherche encyclopédique sur les solitudes et qui fonctionne par image. Donc c'est aussi des entrées par mots, mais là c'est plutôt des mots-images. Donc chaussettes, clapet, silence, grotte, pluie, livre, guillotine, désert. Et disons que c'est des mots qui sont venus à nous. Quand on parlait solitude, quand on lisait solitude, quand on réfléchissait à toute l'ambiguïté de ce que peuvent être les solitudes. Et donc, c'est des images qui sont venues. Et en fait, chaque entrée est après un peu une tentative d'appliquer une méthode. Donc, il y a grotte, c'est des statistiques et un raisonnement logique. Il y a un dilemme philosophique. Il y a une étude de cas littéraire. Il y a diverses choses... qui permet de dire comment on parle de l'habitat en parlant de quoi par exemple, de coquilles, qu'est-ce que c'est que de parler tout seul, enfin plein de choses qui sont liées à la solitude en ces versants à la fois positif, négatif, ambigu. Voilà. Et l'Académie des solitudes, le site est toujours en ligne. Voilà,
j'ai je pense qu'on peut d'abord l'applaudir. Je ne connaissais pas et je m'inquiétais un peu, elle aussi. Et puis finalement, elle m'a dit, une fois que je suis lancé, c'est parti. Je vois que...
Je pense encore à plein de trucs.
C'est exact. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre du collectif qui voudrait éventuellement dire quelque chose?
S'offusquer, rajouter.
Elle a dit beaucoup.
Ah ouf, ça. Formidable. Incroyable comme œuvre.
Sur la partie sonore, la partie aussi, tout ce qu'on fait en dehors des pages...
Est-ce qu'il y a une ou l'autre question dans le public qui se demande
est-ce qu'on ne peut pas être bizarre et sérieux en même temps?
Ça a l'air d'être le cas. C'est tout à fait nous.
Est-ce que vous allez refaire des formats plus zine aussi ou du coup c'est une évolution
ouais. En fait, là, en gros, pour dire où on en est, en fait, on a décidé de créer une collection, comme je disais, qui s'appelle « À l'Est du doute ». Et c'est vraiment cette idée de, je sais plus, on a trouvé une formule, genre, on marche sur la crête entre le vrai et le faux, avec la rigueur de l'absurde et le lyrisme de la science. Ça, c'est notre ligne éditoriale. Comment ?
Enfin !
Et on a réédité l'imprécis et de là pour cette année, et l'année prochaine, on a 2 projets de livres en cours dans cette... Et c'est aussi l'idée justement de faire peut-être des plus petits objets, en tout cas en termes de réalisation. Donc peut-être de freiner un peu avec la revue qui est vraiment une très très grosse machine, parce que c'est 30 personnes, 30 créations, des gens partout, une mise en page de malade, ça coûte ultra cher à imprimer. Donc il y a toute cette pression de diffusion, on en parlait avec Nico l'autre jour, et c'est... voilà. Il y a un peu cette envie. Et par exemple, on avait fait, je pourrais en parler, mais je sais que ça fait beaucoup, mais Café Machine, c'est une revue qu'on a fait une collaboration avec une autre revue qui s'appelle Café sur la traduction, avec qui on prépare un des prochains livres sur l'imposture au niveau international. Et donc, ouais, il y a un peu cette envie-là. Et à la fois de pouvoir accueillir des textes d'autres, Mais là, on a une structure qui s'essouffle un peu. On est... Donc, il faut voir comment. Qu'est-ce qu'on peut suivre.
On est toujours sur des étiquettes, on parle des cases, on essaie toujours de sortir du coup une mini-édition. En même temps, pour présenter ce genre de projet, on est obligé de dire ça. En même temps,
on s'en fout, mais en fait, c'est ce que, comme soulignait très justement le docteur. Pardon,
non, je veux dire, on sait tout ce que pas.
Oui, oui. Non, j'ai bien compris, mais je veux dire, on s'en fout dans l'absolu, nous, ouais. Les cases, on les dégomme si on peut, mais en fait, c'est des enjeux de diffusion. C'est-à-dire que. Et ça, en tout cas, personnellement, moi, c'est un truc qui me tient extrêmement à cœur, qui fait que je fais ça depuis 12 ans, mais qu'en même temps, maintenant, je questionne, c'est que faire des choses pour qu'elles ne soient pas. Surtout des objets comme ça, ouais. Pour que ça ne soit pas diffusé, lu. En fait, ça ne m'intéresse pas et je trouve que c'est limite pas responsable. Enfin, c'est une partie de l'argent public, c'est des arbres, c'est de l'impression, c'est... donc il faut que ça soit diffusé. Après, si je fais un truc à 50 exemplaires qui me fait plaisir et que je le donne à mes amis, je ne trouve pas que ça a moins de valeur. Mais je pense à un format et une manière de le faire circuler. Et après, je peux faire des trucs pour moi et c'est aussi ok, mais du coup, c'est quelles sont les intentions de départ.
C'est pas forcément ça la question pour Zine, mais je veux dire, c'est pour Zine aussi, se partage avec tout le monde.
Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est le mode de diffusion. Et en fait, si tu changes de mode de diffusion toutes les deux semaines, c'est possible.
Oui.
Mais il faut être capable de rebondir, quoi. Là, c'est facile, les libraires, ils connaissent, j'arrive, on se parle plus, on se fait juste, on se check et. Et ça vous y met, c'est-à-dire soit sous une table, soit devant le comptoir, il y a différentes stratégies. Je peux nommer les librairies. Tu vois, et du coup, c'est juste ça. C'est que c'est pas le même, exactement le même réseau. Alors, il y a des réseaux qui se recoupent, mais qui font que j'ai plus de pression à diffuser Papier Machine parce que financièrement, c'est un gros truc que. Voilà. Et juste, j'ai peur d'oublier,
oui.
Mais ça, c'est des marque-pages,
ah,
que c'est des cadeaux pour les gens du musée, si vous voulez, des marque-pages. Parce que c'est des. Et dessus, c'est des définitions qui viennent d'une rubrique qui est là depuis le premier numéro, parce que j'ai pas parlé des rubriques, mais les rubriques, c'est vraiment l'endroit où on s'amuse et on s'énerve vraiment avec la langue. Et il y a une rubrique, notamment, qui s'appelle Jean-Pierre Monfrançais, la rubrique de Jean-Pierre Monfrançais. Et c'est beaucoup sur les évolutions de la langue, toutes les crispations de l'académie, sur l'écriture non sexiste, sur les transformations de la réforme. Parce qu'on applique la réforme orthographique, ce qui offusque un certain nombre de personnes, parce que ça fait sauter trois accents circonflexes. Et en même temps, des néologismes et des inventions de mots et tout. Et donc, les mots qui sont dessus, c'est des mots qui sont issus de la première rubrique de Jean-Pierre.
Vous avez pu remarquer que c'est vraiment incroyablement riche. Hein. On est vraiment super content de les accueillir. Valentine, il va falloir enlever tes raretés avant que tout le monde ne vienne. Non, je parle celles qui ne sont pas à vendre.
Ah, oui.
Et puis après, je vous invite à venir discuter avec le collectif. Ceux qui ont envie de se manifester, ils peuvent lever la main et à ce moment-là, vous saurez qui c'est. Et de venir papoter avec Valentine, de faire votre choix. Hein, c'est vraiment incroyable tout ce qu'elle a amené. Et voilà, un tout grand merci.
Merci beaucoup. Et
au musée de la vie ordinaire.
Je tiens quand même à dire que pour moi, c'était très. D'ailleurs, j'étais un petit peu stressée parce que c'est assez émouvant pour moi d'être ici. Parce que, donc, comme disait Théo, depuis les presses Boulder, ce qui était avant ici, c'est vraiment une des premières librairies qui nous a soutenus et qui a de manière constante pris papier machine et vendu tous les papiers machine déposés pendant 10 ans, avec toujours un accueil très chouette. Et dans un lieu aussi qui était une presse et pas juste une librairie super spécifique et tout. Et enfin, moi, je trouvais ça. Assez précieux. Et aussi avec Dr Litchi qui m'a informé il n'y a pas longtemps qu'on était dans la bruxellose, ce qui est une forme de consécration. Voilà, qui citait l'imprécis dans la bruxellose et j'ai reçu ce message et j'ai du mal à m'en remettre. Alors en fait ici je l'en sens dans un héritage qui est un peu celui dans lequel on aimerait s'inscrire à notre manière et du coup c'était assez émouvant d'être là ce soir.
Merci beaucoup.
Merci.
Là, on vous invite à venir voir ces belles productions.